France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quelle politique de la ville à l'ère jupitérienne? Quelle priorité pour Emmanuel Macron? On attendait des réponses cette semaine, mais le président a botté en touche. Devant quelques 600 acteurs des quartiers réunis à l'Élysée, il a rejeté l'idée d'un nouveau plan pour les banlieues en estimant que les plans s'étaient dépassés. Du coup, Jean-Louis Borloo a remballé le sien tout en faisant bonne figure. Quant aux élus et représentants associatifs qui ont passé près de 2 heures à écouter le chef de l'État, ils sont repartis bredouilles, ou presque. Le président a simplement pris date pour le mois de juillet. Alors que faut-il retenir de tout cela? Quelle est la politique de la ville d'Emmanuel Macron? Est-ce simplement « aide-toi, le ciel t'aidera » C'est ce que l'on va tenter de comprendre ce soir avec nos invités qui, eux, connaissent parfaitement le sujet. Mehdi Bouteghmès, du collectif Citoyen, bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller municipal à la Courneuve en Seine-Saint-Denis et enseignant. Renaud Epstein, qui est enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste de la politique de la ville. Bonsoir Renaud Epstein.
Bonsoir.
Sylvine Thomassin, maire socialiste de Bondy en Seine-Saint-Denis, bonsoir à vous.
Bonsoir à vous.
Et Claire Chaudière, de France Inter, qui suit ce dossier.
Bonsoir.
Inter, bonsoir Claire. Vos questions à tous au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Alain est en ligne de Clermont-Ferrand. Bonsoir Alain, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Voilà. C'est bon. Je suis ravi que vous posiez
C'est vous
ma
qui
question.
Inaugurez le téléphone sonne ce soir.
Oui, oui, c'est
on
bien.
Vous écoute.
Bon, voilà, pour être clair, je suis conseiller municipal à Clermont-Ferrand. Hein. Bon. D'autre part, je me suis opposé au plan Borloo à l'époque. Bon. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont travaillé. Monsieur Borloo, mais un tas de maires, d'associations, de gens compétents quand même sur la question. On voit bien dans nos quartiers, parce que je suis médecin d'ailleurs dans un quartier populaire, donc on voit bien dans nos quartiers ce qui se passe. Et ils ont remis un rapport qui a été balayé de la main par Jupiter, qui va nous annoncer sûrement un certain nombre de choses. J'aimerais savoir quand même sur le fond quels seront les interlocuteurs de M. Macron, puisque il rejette un rapport qui a été fait par des gens très compétents, qui sont des associatifs, des maires, etc. Donc, quels seront les interlocuteurs qu'il va choisir? Je lui souhaite bon courage s'il rejette tous ces interlocuteurs-là. Donc, il va falloir quand même qu'il réfléchisse pour mettre en place une vraie politique de la ville, mais surtout la question, c'est-à-dire la question du chômage, parce que c'est ça qui mine nos quartiers populaires.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Alain, en direct de Clermont-Ferrand. Sylvine Thomassin, vous qui êtes élue également, maire de Bondy, est-ce que vous avez ressenti la même chose que notre interlocuteur?
Oui, tout à fait.
Vous étiez à l'Élysée.
J'étais à l'Élysée mardi matin et je dois dire que je suis allée pleine d'espoir. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste. J'avais confiance dans le rapport Borloo. Après tout, c'était quand même le président de la République qui l'avait commandé, ce rapport. Il avait donc, a priori, la confiance du président de la République pour dessiner ce que pouvaient être nos quartiers dans les 10-15 ans à venir et nos villes populaires. Et ce rapport, on l'avait regardé la semaine précédente au bureau de l'Association des maires de France. On avait trouvé, il y avait peut-être une ou deux petites choses à dire sur les 19 mesures. La Cour d'équité, notamment, ne nous avait pas complètement convaincus. Mais on pensait que c'était un rapport qui avait sa cohérence. Il connaît bien les territoires, Jean-Louis Borloo. Nous, on n'est pas partisans, les maires, quand il s'agit de l'intérêt des habitants. Donc, on était tout à fait capables d'être tous derrière Jean-Louis Borloo. Et France Urbaine, Ville et Banlieue, l'Association des maires de France, étaient derrière lui pour dire qu'il ne fallait pas que le président de la République grappille dans ces 19 mesures, mais qu'au contraire, il embrasse la cohérence globale.
Mais là, vous et avez donc, le même sentiment qu'Alain, c'est-à-dire qu'il a jeté le bébé avec l'eau du bain. Le rapport Borloo avec le
gouvernement. Oui, ça me parle pour une sage-femme. Mais en effet, on est arrivés tous pleins d'espoir. Et on a été douchés en 1h30. Et je dois vous dire que c'est vrai qu'au moment où il a prononcé le mot clientélisme, en parlant des élus locaux pour la troisième fois, là je me suis dit que je ne pouvais pas rester plus longtemps. En fait, il a fait un long discours tout en nous disant qu'il ne ferait pas de discours, avec un grand mépris des élus locaux, et surtout, je trouve, une grande méconnaissance des territoires.
Alors la question que pose Alain est sans doute la bonne. Du coup, si on ne fait plus confiance aux élus, qui sont les interlocuteurs, Mehdi Bouteghmès? Qui seront les interlocuteurs?
Alors nous, sur cette question, avec le collectif citoyen, on a pris les devants et on a organisé ce qu'on a appelé le rassemblement du bitume le 17 mai. Donc c'était à Paris et donc nous, en tant que mouvement national et régional aussi, avec le réseau dont nous disposons, on voulait justement se faire se rencontrer Jean-Louis Borloo, Monsieur de Normandie, etc. Avec des, voilà, exactement, avec des acteurs de terrain. Des gens qui, depuis longtemps, ont fait la preuve de leur engagement et aussi de leur expertise de terrain. Et donc, ça s'est passé. Et ça s'est passé, et les choses se sont dites vraiment sans embâche, directement, et parfois de manière assez vive. Et parce que pour nous, en fait, je ne suis pas sur la même ligne que Madame Thomassin, parce que...
Mais sur le discours d'Emmanuel Macron.
Mais justement, parce qu'au fond, le rapport Borloo en tant que tel, au début, était critiquable. Bien que Jean-Louis Borloo est quelqu'un effectivement de très reconnu, respecté et respectable, mais le rapport en tant que tel, la manière dont il a été construit, manque un échelon important, celui des acteurs de terrain.
Donc pour vous, ça ne vous a pas dérangé qu'Emmanuel Macron balaye un petit peu
On le sentait venir.
Les corps intermédiaires.
C'est quelque chose qu'on sentait venir. C'est
vous
quelque chose. On sentait venir que Macron voulait à ce moment-là aussi vraiment faire table rase, imposer sa manière de faire les choses, préparer aussi. Il faut pas se le cacher. Hein, les élections municipales et casser un système qui existe en France depuis assez longtemps, le système de la politique de la ville particulièrement, qui joue dans la gouvernance locale des collectivités en France. Et particulièrement dans les territoires périurbains. Et donc voilà, là on a senti qu'il y avait quand même un enjeu politique important. Parce que aussi la sociologie de la rédaction de ce rapport mettait de côté une grande partie d'acteurs locaux de terrain.
Et du coup, vous sentez légitimé après ce qu'a dit le président ? Vous pensez que vous allez pouvoir être les interlocuteurs ?
Pas particulièrement, mais on ne peut pas utiliser Macron pour taper Borloo ou Borloo pour taper Macron. C'est aussi simple que ça, notre positionnement. Et sur un point qui est clair, je pose un point de référence qui est le même événement qui s'est passé sous le mandat de François Hollande. C'était le rapport Baquet-Meschmasch qui partait du terrain. Il y avait 30 propositions, là, de la même manière, hein. Une seule a été reprise, c'était les tables de quartier, qui sont devenues les conseils citoyens, qui ont été totalement javelisés par le passage de l'État dessus, où on a eu des instances qui n'ont même pas fonctionné sur leur intention initiale.
On reviendra sur le passé, mais on va peut-être s'arrêter à nouveau sur Renaud Epstein. Vous qui êtes un bon analyste de cette situation, comment vous avez interprété le discours du président mardi ?
Alors, sur l'entrée qui vient d'être donnée, en tout cas, celle des acteurs, moi, je voudrais pas trancher entre je dirais qu'il y a eu un double mépris dans ce discours. Un mépris, effectivement, de ce que vous appelez les corps intermédiaires, en particulier les élus locaux, mais plus généralement, un mépris de tous les acteurs qui s'étaient mobilisés dans la production de ce rapport. Alors, certes, tous les acteurs, ce ne sont pas tous les acteurs, ce ne sont pas n'importe quels acteurs, c'était des élus locaux, beaucoup, des associations d'élus et de grands opérateurs, de grandes associations qui s'étaient mobilisés. Et puis, il y a eu un autre mépris, me semble-t-il, c'est aussi pour tous ces acteurs citoyens, ces collectifs divers et variés qui se mobilisent dans l'éducation populaire, dans un certain nombre d'associations, et que là aussi, on a balayé d'un revers de la main. Moi, je suis assez frappé de voir comment Emmanuel Macron n'est pas capable de prononcer le mot de conseil citoyen, qui était l'instance, qui était chargée, justement, de mobiliser tous ces acteurs. Alors, c'est la deuxième fois dit conseil de quartier, etc. Et en fait, quand on voit, il a tout un discours justement en disant je passe par-dessus les corps intermédiaires, moi je vais aller mobiliser l'écosystème des banlieures.
Et il dit rendez-vous dans deux mois, rendez-vous tous les deux mois, ça ne vous convainc pas, cette méthodologie de se retrouver régulièrement
avec
tout le monde.
Et se retrouver avec le conseil présidentiel des villes. Et qu'est-ce que c'est que ce conseil présidentiel ? Il y a plein de gens très respectables, mais ce sont les premiers de cordée des quartiers, des entrepreneurs,
de cordée de quartier, là, c'est une belle expression.
Ben, oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, on va s'appuyer sur des élites, des entrepreneurs des quartiers qui vont entourer le président et qui vont lui apporter leur lumière. Le problème, c'est pas que toutes ces personnes sont extrêmement respectables.
On va juste en citer quelques-unes quand même, pour qu'on sache bien de qui on parle. Il y a Yacine Bellatar dans ce conseil présidentiel, Sarah Ouramoun, la boxe. Il y a Mohamed Meschmasch qui devait être là avec nous ce soir et qui a eu un petit souci. Saïd Amouche de Mosaïque RH, Zaya Ziwani, la chef d'orchestre. Abdella Boudour qui s'occupe de la dictée des cités. J'en oublie certains.
Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le conseil présidentiel.
Alors autant pour moi. Mehdi Boutegmès, qui vous avez remarqué spécialement dans ce conseil présidentiel et qu'est-ce que vous pouvez en attendre, vous ?
C'est un conseil qui est assez large, c'est la transformation, on va dire, au mandat d'Emmanuel Macron du Conseil national des villes. Donc voilà, il a ajouté des personnalités avec lesquelles il avait fait un chemin. Personnellement, je n'en attends pas grand-chose pour la simple raison, pas tant sur la composition du Conseil présidentiel, mais tant par rapport à la politique d'Emmanuel Macron en tant que tel, qui se cherche sur cette question, j'ai l'impression, en ce moment, parce qu'effectivement, il a pas cité plein de choses, mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il parle de la loi SRU sans la citer aussi, par exemple. Donc, il y a plein de choses qui ont été mentionnées et on ne sait pas vraiment ce qui se fait. Donc, je ne sais pas comment il va consulter ce conseil présidentiel où sur lequel j'ai l'impression qu'il veut avoir une température générale de ce qui se fait dans les banlieues.
René Epstein, je vous ai coupé tout à l'heure en faisant cette parenthèse.
Il me semble que l'enjeu n'est pas d'avoir des personnes qui vont conseiller le président. Vraiment, la question, c'est comment, à Bondy, à Vierzon, à Marseille, un peu partout, des collectifs, effectivement, citoyens, peuvent s'engager, éventuellement, avec des élus, avec d'autres opérateurs, pour construire des politiques. S'il s'agit de produire un diagnostic, les diagnostics, ils sont là, d'ailleurs. Le comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale va publier, Le Monde en a fait l'écho il y a quelques jours, un rapport qui me semble bien plus éclairant que tout ce que peuvent susurrer à l'oreille du président sous les ordres de la République ces personnes, par ailleurs, hautement respectables. C'est-à-dire, ce rapport a montré par A plus B la discrimination produite par l'État en Seine-Saint-Denis et sa voix ailleurs. Alors, est-ce que l'enjeu, c'est d'avoir des personnes qui vont donner des conseils ou est-ce que l'enjeu, c'est simplement de tirer les enseignements de ce qui est là, ce qui est établi et transformer les politiques publiques pour mettre fin à cette discrimination des quartiers populaires?
Sylvine Thomassin, sur cette nouvelle philosophie, nouvelle façon de faire inaugurée par Emmanuel Macron, avec les acteurs de terrain ou co-construits.
Oui, enfin, on a l'impression que ce président pense que l'innovation et la modernité, ça se décrète. Donc les plans, c'est has-been, c'est l'ancien monde et lui, il est dans le nouveau monde. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que le président de la République, quelque part, a dit d'une manière phénoménalement brutale aux acteurs de quartier qui étaient là aussi, mardi matin, et aux élus qu'il n'avait pas réussi et qu'il fallait changer de méthode. Et lui, il sait. Lui, il connaît, il a les bonnes méthodes. Et là, ce qui vient de sortir du chapeau, c'est que la bonne méthode, c'est d'être en contact direct avec les habitants. Quid de la légitimité démocratique dans un pays comme la France, au profit de réseaux? Moi, ça me surprend quand même. D'autant plus qu'on a l'air de dire que les élus, eux, ne seraient pas en lien avec les habitants. Alors ça me... Bon, je ne comprends pas comment un président aussi brillant que lui peut avoir aussi peu d'intelligence des territoires, pour tout vous dire. Et pas seulement des territoires urbains ou des quartiers sensibles comme le mien, mais je préfère qu'ils soient sensibles plutôt qu'insensibles, nos villes populaires. C'est très bien comme ça. La ruralité, la métropole du Grand Paris, ça échappe aussi à son viseur.
Alors, cela dit, il n'a cessé de mettre en parallèle les banlieues, les territoires ruraux oubliés. Ça revient à plusieurs moments dans son discours. Il dit tous les deux mois, non seulement on va faire le point sur des mesures pour les quartiers populaires, mais en même temps, on va faire le point sur les mesures pour les territoires ruraux. Finalement, cette mise en concurrence des territoires, ce parallèle, il est constant dans son discours, non, Renaud Epstein? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, alors, de ce point de vue-là, il reprend quand même des éléments du rapport Borloo, des mesures du rapport Borloo, au moins de cette ligne d'analyse qu'on avait dans le rapport, qui se construisait finalement contre le discours qu'on entend depuis, de manière très forte ces derniers mois, mais qu'on entend depuis quelques années, une petite musique qui nous dit, finalement, on en ferait trop pour ces quartiers.
Et pas assez pour les zones périurbaines,
pour cette supposée
etc.
France périphérique. On met des milliards dans ces quartiers et il y a l'autre France qui souffre. Alors, cette petite musique qui, paradoxalement, a été alimentée par Borloo, en tout cas par son plan, puisque le plan Borloo, le plan de rénovation urbaine, a conduit à mobilisation de 40 milliards, et ces chiffres nous donnent l'impression qu'on met des milliards dans les quartiers. Le seul problème, c'est que on ne sait pas ce qu'on met au titre de toutes les autres politiques, et la réalité, c'est qu'on met bien moins dans ces quartiers que dans d'autres territoires.
Et on repart au standard du téléphone sonne. Cette fois, c'est Pierre qui est en ligne avec nous, du Golfe Juan. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir, j'avais une question.
Écoute.
Merci. J'avais une question d'ordre général qui s'adresse à l'ensemble de vos invités. Moi, je suis pas en lien avec de la banlieue, donc je voudrais savoir comment vous qualifiez l'état des banlieues en 2018 et puis quelle évolution vous avez vue sur 10 ans, comment elles étaient en 2008, comment c'est aujourd'hui. Et je veux pas provoquer, mais à quand la prochaine révolte?
Vous y allez fort là, Pierre, mais on va vous répondre. Mehdi Bouteghmès, du collectif citoyen, ça va comment dans les banlieues?
Pour le moment, on voit une certaine incertitude, une incertitude à tous les niveaux. Hein. D'abord, pour moi, pour vous parler, même si je suis natif de la Courneuve, du 93, etc., je ne suis pas moi-même un expert ou je ne suis pas moi-même un thermomètre de ce qui se passe dans ce qu'on appelle les banlieues.
Mais depuis 10 ans, vous avez senti une évolution ?
Il y a du changement. Il y a de l'évolution, mais l'évolution, ça peut. On n'est pas sur du normatif, on n'est pas sur du amélioratif, ou on sait pas vraiment où on va en fait depuis tout ce temps-là. Et c'est pas depuis 10 ans, au fond, qu'il faut vraiment réfléchir. C'est depuis 2005, depuis ce que certains appellent les émeutes, ce que moi je préfère appeler les révoltes urbaines. Le monsieur a parlé au téléphone là de révolte, puisqu'il y a une charge sociale, il y a une charge politique, il y a quelque chose qui se passe derrière. Aujourd'hui, on a depuis un moment le déploiement de plans de rénovation urbaine, de politiques spéciales, de politiques qui veulent être particulièrement adaptées à notre territoire. Aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a pas véritablement de révolution sur ce cadre-là. Je pense que c'est le mot qui est recherché par tous ceux qui ont voulu imaginer un nouveau plan, en fait.
Sylvine Thomassin, comment... Pour répondre à la question de Pierre.
Oui, quand Pierre a posé cette question, je me suis souvenu de mon ami Claude Dillin, ancien maire de Clichy-sous-Bois, qui disait, donc il a vécu la mort de Ziad Ebouna, et il disait quelques jours après, quand on est assis sur une poudrière, c'est pas étonnant qu'une petite étincelle suffise à faire sauter le tout. Il avait tellement raison. En effet, moi, je parle plutôt également de révolte sociale que d'émeute urbaine, Mehdi. Vous avez également raison. Que dire
Est-ce que les politiques qui ont été appliquées depuis 10 ans ont porté leurs fruits? Est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose
je
de positif?
Dis oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'il faut franchir le périphérique et voir qu'il y a de la vie derrière pour s'en rendre compte. Moi, j'avais 5 quartiers sur le territoire de Bondy, 5 quartiers en rénovation urbaine. Il y a 2 quartiers, presque 3, qui sont terminés. Et je vous assure que la vie y a grandement changé. On y connaissait une grande désespérance avec tout ce que l'on connaît et qui caricature la banlieue un peu partout. Les boîtes à lettres défoncées, la mécanique sauvage, les trafics de drogue. Bon, on a complètement reconstruit. Alors certes, on a fait beaucoup d'urbain. Et il faudrait maintenant passer à l'humain. Et c'est ce qui m'intéressait d'ailleurs dans le rapport Borloo. Mais quand même, quand on envoie une image de respect aux habitants, parce que ce que l'on a reconstruit, c'est magnifique. Et bien, ils créent des amicales de locataires, ils se respectent, les enfants jouent sur la pelouse. Les parents se disent des choses les uns aux autres par rapport au comportement des enfants et ça marche. Voilà. Et moi, je crois très, très fort à cet effet miroir. On leur envoyait une image de délaissement et on leur a envoyé une image de respect. Ça fonctionne.
Renaud Einstein.
Alors, sur la question de comment évoluent les banlieues depuis 10 ans, la première chose qu'il faut toujours rappeler, c'est que, alors on parle là de certaines bouts des banlieues, les quartiers populaires de grands ensembles. En gros, pour la politique de la ville, cette politique qui les vise, elle vise 1300 quartiers en France. Sur ces 1300 quartiers, en fait, il y a des situations extrêmement diverses. Et que être dans un quartier populaire, dans une petite ville en déclin, et un quartier populaire à Montreuil ou dans le cœur d'une métropole, à Nantes, à Tours, les situations n'ont rien à voir, même si les indicateurs statistiques sur la pauvreté, etc. sont les mêmes. Donc voilà, toujours avoir ça. Dans l'idée, il y a une grande diversité des situations. Si on fait la moyenne, si on suit les chiffres notamment de l'Observatoire National de la Politique de la Ville, depuis 2007, globalement, la situation s'est dégradée. C'est-à-dire, mais il faut bien voir ce qui s'est passé. 2007, c'est le début de la grande crise. On sort d'une décennie de crise très intense. Et les statistiques sont effrayantes, puisqu'elles nous disent qu'à l'échelle des aires urbaines, en gros des territoires urbains, l'intégralité de la hausse du chômage, qui a été forte, entre 2007 et 2012, s'est concentrée dans ces quartiers. Ce qui veut dire, c'est que le reste de la ville s'en est à peu près sorti et toute la hausse du chômage et de la pauvreté a été portée par ces quartiers. Mais alors, cette statistique, en même temps, on peut la retourner parce que on peut avoir l'impression, si on voit qu'il y avait 20% de chômage quand on est passé à 25%, on peut se dire, ça va de pire en pire et la politique de la ville est inefficace. Sauf que, en même temps, il faut voir que sur 10 ans, c'est plus les mêmes populations qui habitent là. On a en gros, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron parle d'assignation à résidence, et c'est vrai pour une partie de la population. Mais la population de ces quartiers, elle est mobile. 10% de la population de ces quartiers en moyenne nationale bouge chaque année, déménage. Et quand ils déménagent, ceux qui s'en sortent, ils en sortent. Ils en sortent, et donc ça veut dire aussi que les actions de la politique de la ville ont pu être efficaces pour ces personnes. Et ceux qui les remplacent, c'est qui? C'est les personnes qui, dans des marchés du logement très très tendue, dans une situation de crise du logement intense, ceux qui arrivent dans ces quartiers, ils sont souvent plus mal en point, et ce qui nous fait une impression statistique que la situation se dégrade. Mais individuellement, il y a des gens qui s'en sortent.
Claire Chaudière. Il y a un secteur sur lequel, effectivement, en tout cas, il y a eu une dégradation. En tout cas, beaucoup d'acteurs parlent de dégradation. C'est la question de l'école, la question de la ségrégation scolaire. Je ne sais pas, Sylvine Thomassin abondit. Est-ce que la mixité scolaire est au rendez-vous? Comment ça a évolué ces dernières décennies?
Si vous évoquez Bondy, c'est une ville modeste dans son ensemble. Hein. Donc, c'est un petit peu difficile de voir la différence entre les quartiers. Et puis, comme nous avons des quartiers d'habitat social un peu partout dans la ville, en fait, il y a quand même plutôt de la mixité, on va appeler ça comme ça, dans chaque école, si ce n'est sur un secteur très, très, très particulier du nord de la ville, à la Noucaillée, où il n'y a pas encore cette mixité qui est acquise. Mais en effet, c'est l'histoire du sas et de la nas. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de mes concitoyens vont mieux. C'est pas qu'une impression, je le vis, je les rencontre, je vis avec eux. Mais c'était une étude de l'ANRU qui avait montré ça, le SAS ou la NAS, la Seine-Saint-Denis. Eh bien, en fait, l'étude a prouvé que c'était pas une NAS où les gens étaient enserrés, mais que c'était un SAS où, à partir de la Seine-Saint-Denis, on se posait, on avait un logement, on acquérait un statut quand on était, par exemple, étranger, en situation parfois irrégulière. Et à partir de cette amélioration, un logement, un emploi, un statut, eh bien, on allait ailleurs. Hein, et d'autres les remplaçaient, et ceux qui les remplacent sont en effet toujours plus pauvres. Et en plus, on ne comptabilise même pas, et donc dans les dotations c'est compliqué, on ne comptabilise même pas les gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire.
Et alors, on va justement au téléphone zone, parce qu'on a une question qui porte sur la pauvreté des habitants. C'est Stéphane qui est en ligne de Labarthe sur l'Aise. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
J'ai pas écorché le nom de votre ville?
Non, très bien, oui. Barthe de l'Aise, en occitan, c'est comme ça.
Ah,
oui. J'appelais, moi, parce que, bon, mais en fait, vous venez quand même d'en parler, mais depuis le début de l'émission, j'étais frappé, mais aussi dans tous les discours qu'on a sur le sujet des banlieues, des quartiers populaires, des quartiers sensibles, des quartiers délaissés, on ne dit jamais le mot quartier pauvre ou ville pauvre. Et moi, je comprends pas qu'on ne commence pas par mettre ça toujours et toujours en avant, puisque est-ce que finalement c'est pas ça le problème? Effectivement, quand on nomme bien un problème, est-ce qu'on commence pas aussi un peu à le résoudre? Voilà, c'était ma question très simple. Voilà.
Merci Stéphane pour cette interpellation. Qui souhaite répondre?
Mehdi Boutekmes. Moi, quelque chose sur ça, c'est que ce qui m'avait frappé le 22, parce que j'y étais aussi l'allocution du président de la République, il y avait un mot qui revenait tout le temps, quartier, 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 oui. Quartier, 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 quartier. Et c'est un mot qui m'énerve, fondamentalement. Et à partir du moment où on veut avoir une politique qui
se rapproche... On n'ose plus parler de banlieue, alors on parle de quartier,
même
c'est
banlieue,
un peu ça. Hein.
Mais même ces mots, tous ces mots-là, ce que j'aimais à la limite sur le dernier mandat, c'était comment on a mis en place l'idée de territoire. Et cette idée de territoire, elle permettait de trouver un dénominateur commun aux problématiques de territoires périurbains dans lesquels on peut mettre autant des zones agricoles que de ce qu'on appelle maintenant des quartiers populaires ou encore de lorsqu'on parle de ce qui se passe outre-mer. Et là, on voit des problématiques qui sont communes parce que là, on a commencé à essayer de faire ce que l'État jacobin fait très bien, c'est-à-dire mettre en place une politique qui répond à des choses assez similaires. Et on a en France un problème territorial, de la place des services publics dans les territoires. Donc, parler de quartier et ajouter après encore un autre adjectif, bon, ça ne va pas changer grand-chose.
La pauvreté est une réalité
voilà.
Quand même.
C'est une réalité. On sait ce qu'on vit quand on y vit. Quand on a des taux de chômage qui sont 40%, quand on a une grande partie de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, on peut en parler. Mais on ne peut pas essentialiser en parlant de quartier. D'abord, sur un point simple. Ce ne sont pas des quartiers, ce sont des voisinages. Il y a des gens qui y vivent. Et ce point-là, on ne le prend absolument pas en compte. On croit qu'on va justement... un coup de bulldozer, ça peut régler le problème. Et que, en gros, on va essayer de gérer après les dommages collatéraux. Ce n'est pas vrai. Dans les cadres de projets de rénovation urbaine, parfois, un quartier pauvre, lorsqu'une barre a été démolie, se retrouve dans un autre quartier pauvre, d'un autre département, avec la même sociologie. Et on a un collège qui a la même sociologie que le collège qu'il avait. Nous, on a eu le cas, par exemple, sur la Courneuve, avec la démolition de la barre Balzac, où plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes de la Courneuve qui se retrouvaient à Goussainville, avec un établissement scolaire qui reprend la même sociologie. Parce qu'on a... c'est un mot qui est dur, mais on a quasiment déporté un voisinage et on l'a mis ailleurs.
René Epstein, peut-être un mot ?
Oui, les mots sont importants, hein, notre éditeur nous le rappelle. Mais moi, il me semble que l'appellation de quartier, alors pas quartier, mais en tout cas populaire, est beaucoup plus pertinente que pauvre. L'idée de pauvreté renvoie à une idée de dénuement, de déficit, alors que ces quartiers, certes, sont des quartiers dans lesquels il y a de la pauvreté monétaire. Mais ce sont des quartiers dans lesquels il y a des ressources individuelles, des ressources collectives. Et quand bien même il y a des problèmes nombreux, concentrés, massifs, ces problèmes ne peuvent être imputés exclusivement aux habitants. L'idée de la pauvreté renvoie quand même à cette responsabilité individuelle. Ce qui est quand même massif, et notamment en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis, les problèmes qu'on peut rencontrer dans les quartiers renvoient moins aux habitants de ces quartiers qu'au reste de la société. Ce sont des problèmes de discrimination, de mise à l'écart.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui mesurer correctement cette question de la pauvreté et la question aussi des financements publics sur ces territoires, de la question dont vous parliez tout à l'heure, d'équité territoriale ?
Moi, il me semble que c'est peut-être il y a une seule chose qui a vaguement survécu du rapport Borloo dans le discours de Macron, c'est la Cour d'équité territoriale. Alors la Cour d'équité territoriale telle qu'elle était dans le rapport Macron, dans le rapport Borloo, pardon, c'était l'idée. Il y avait deux choses. Il y avait l'idée qu'il fallait pouvoir objectiver et dire concrètement combien la puissance publique mettait au titre de toutes les politiques, au titre de l'éducation nationale, de la police, de la justice, dans les différents territoires, non seulement dans les quartiers populaires, mais aussi dans les zones rurales, etc., pour pouvoir, à un moment donné, en finir avec ce discours du « on en fait trop pour les quartiers ». Parce que si on avait un peu d'objectivation, on se rendrait compte que c'est pas le cas. Mais il y avait un deuxième volet dans cette cour telle qu'elle était proposée par Borloo, qu'on s'était à dire eh « ben, on va pouvoir sanctionner les responsables publics qui ne produiraient pas une allocation équitable des ressources ». Macron s'en est saisi en laissant de côté le volet de l'objectivation, de la géolocalisation des crédits, pour dire on va faire quoi ? Une instance de recours, s'il y a des élus ou des citoyens qui trouvent qu'ils, sur leur territoire, sont maltraités, ils vont pouvoir se plaindre. Le problème, c'est pas ça, parce que ça existe déjà. C'est le défenseur des droits pourrait s'en saisir. Le problème, c'est qu'on n'a pas ces chiffres, on n'a pas ces données. Parfois, quelques collègues produisent des études et ils nous montrent que aujourd'hui, un collégien qui habite à Bondy coûte deux fois moins cher à la puissance publique qu'un collégien de Paris. Et on a besoin de ces chiffres de manière continue pour toutes les administrations.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Marie est en ligne de Grenoble. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir à toutes.
On vous écoute.
Oui, je vous explique rapidement. Donc moi, j'ai eu une action en tant que conseillère en insertion, alors brève, hein, de 6 mois. Je venais de faire une formation et il se trouve que j'avais une mission dans le cadre d'un long stage au sein de l'école de la deuxième chance. Et ma mission était tout simple, elle était de faire en sorte que ce dispositif qui était vraiment fait pour les jeunes des quartiers prioritaires, de faire en sorte que ces jeunes soient informés de ce dispositif-là. Donc, bon, je vous avoue que moi, je suis issue de l'entreprise. Hein, j'ai été, entre guillemets... Voilà, j'ai eu une parenthèse, bon, j'étais enseignante fille, bref, comme plein de gens maintenant, un parcours un petit peu sinueux. Pour autant, dans ma mission, j'ai dû rencontrer plein d'acteurs sociaux, donc des directions de centres sociaux, voilà. Bon, restons par rapport à Grenoble, qui je trouve, j'imagine, assez représentatif de l'évolution des quartiers sensibles en France. Eh ben, j'ai constaté, par exemple... un clientélisme et puissance 10 dans ces quartiers, où les directions de centres sociaux baissaient complètement les bras. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y avait des institutions parallèles très très fortes qui attiraient bien plus les jeunes, notamment des maisons des jeunes et de la culture, qui étaient détenues, je vous le garantis, par des trafiquants notoires de Grenoble. Je peux citer le quartier Paul Mistral, c'est de notoriété publique. Vous allez vous promener dans ce quartier le dimanche soir, régulièrement il y a des feux sur la route, etc. Personne ne dit rien. Les policiers font tout ce qu'ils peuvent, mais je vous assure que c'est la jungle. Après, moi j'ai
Petite question peut-être, Marie ?
Une question, c'est qu'est-ce que, enfin, au-delà de tout le verbage là que j'entends moi sur la politique, l'ANRU, etc. Les banlieues, honnêtement, flambent, mais depuis déjà, moi ça datait de 2015. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce clientélisme quand vous avez des gamins de 11 ans qui effectivement font des sèchent maintenant même les cours. J'ai été témoin de ça dans les collèges.
Marie, je vous propose qu'on ouais. essaye de répondre peut-être à votre interpellation, Sylvine. Thomasin, qui n'aime pas oui. du tout entendre parler de clientélisme, de manière
non,
générale.
Non, ça c'est clair. Bon, alors évidemment, il peut y avoir l'arbre qui cache la forêt, et dans ce cas-là, je combattrai l'arbre. Mais je crois que la forêt, en effet, des 36 000 élus de France, n'est pas une forêt clientéliste. Ça, je veux bien, mais on considère que la disparition de la taxe d'habitation 2 ans avant les municipales, ça peut peut-être aussi être, du côté du président de la République, quelque chose de clientéliste. Non, je m'oppose à cela. Pour le reste, enfin, moi, je ne sais pas où habite madame et je ne connais pas la situation de Grenoble. Donc, je lui fais confiance pour ce qu'elle nous a dit. Mais moi, je dors tous les jours dans ma ville de Bondy. J'y ai élevé mes 4 enfants et j'y vis bien. Voilà. Et ça ne flambe pas tous les jours en bas de chez moi, même très, très, très rarement. Bon, donc, voilà. Attention aux discours caricaturaux sur la banlieue. On a déjà suffisamment eu avec le président de la République avant-hier.
Renaud Epstein.
Non, mais il y a un vrai problème de clientélisme des élus locaux en banlieue. Regardez ce qui se passe à Levallois-Perret.
Très bien.
Sans commentaire. Une petite question de Francis qui est à Marseille. Ça, c'est par Internet. Il nous dit, ne faut-il pas investir massivement dans la sécurité plutôt que dans l'éducation comme on le fait depuis 20 ans? Qui souhaite réagir à cette remarque en forme de question de Francis, Mehdi Bouteghmès,
bon, là,
qui est enseignant
parler, voilà.
Ah, bah oui.
Je pense qu'effectivement, l'école, c'est ce qui nous permet de le mieux prendre, de mieux faire un constat de ce qui se passe partout en France. Les écoles sont partout et c'est ce qui nous permet le mieux de pouvoir évaluer les inégalités territoriales entre les différents territoires de la France. Maintenant, une célèbre citation qui disait « Ouvrez des bibliothèques, ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons ». Aujourd'hui, en France, on a un véritable problème, non pas dans la population carcérale sur leur origine, mais sur le niveau de qualification, sur le niveau de formation, sur le parcours socio-économique. C'est ces choses-là qu'il faut prendre à bras-le-corps. Si aujourd'hui on pense, et c'était dans l'intervention de la dame, je ne pense pas que c'était une erreur de sa part, lorsqu'elle remonte les violences à 2015, c'est parce qu'effectivement, dans la tête de beaucoup de gens, il y a un lien très étroit entre quartier, banlieue, etc., avec le terrorisme, avec la violence, avec ci, avec ça. On le voit dans plusieurs émissions qui stigmatisent à longueur de journée, de soirée. Je ne sais même pas comment les gens peuvent regarder ça. Et à terme, on a une image d'une jungle, d'un territoire sauvage, de non-droit qu'il faut reconquérir. Et c'est d'ailleurs même un terme, un vocabulaire utilisé par le ministre de l'Intérieur pour parler de la police de proximité du quotidien. Donc là, on a un véritable problème sur comment on parle. Mais l'école, c'est la base.
Alors juste une question sur l'école, parce que je crois que Jean-Louis Borloo proposait de verser une prime spéciale aux enseignants des zones d'éducation prioritaire. C'était aussi une promesse d'Emmanuel Macron, visiblement.
Mais c'est déjà le cas.
C'est passé à la trappe, non?
C'est déjà le cas. Enfin, il y a déjà la prime REP+. Bon, elles sont inégalement réparties puisqu'on a retiré à certains pour donner à d'autres. Dans des villes où, comme nous à la Courneuve, où quasiment toute la ville et toutes les zones habitées de la ville sont quartiers prioritaires de la politique de la ville, où quasiment toutes les écoles sont REP, comment on fait vraiment pour allouer des moyens? C'est pas nécessairement en payant plus les profs, c'est aussi en leur donnant plus de moyens dans les dispositifs éducatifs qu'il faut mettre en place. On a un problème aujourd'hui, par exemple, sur les CP et les CE1. Qui sont dédoublés.
Et puis il y a un enjeu aussi sur l'ancienneté des profs, c'est-à-dire que, et le rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis le montre très bien, ce sont les sortants d'école qui arrivent systématiquement dans les quartiers populaires avec un turnover très important. Ça c'est un point très important.
Un mot quand même des annonces faites par Emmanuel Macron, il y en a quand même quelques-unes. Création de centres d'apprentis dans les quartiers, 30 000 places de plus en crèche, 30 000 stages pour les troisièmes, Sylvine Thomasin.
Peanuts, puisque les 30 000 places de crèche, c'est donner 1 000 euros. Une place de crèche, ça coûte 10 à 12 000 euros. Donc non, évidemment, ils nous donnent 1 000 euros, mais on n'aura pas les moyens de trouver les 11 000 qui manquent. Donc peanuts. Bon, et franchement, moi, j'attends pas d'un président de la République qu'il s'engage sur, soi-disant pour créer, pour que les mômes aient des réseaux, sur 30 000 stage de troisième. D'abord, on le fait très bien sans lui depuis des années, et heureusement qu'on l'a pas attendu. Je l'attends à un autre niveau. Enfin, quand il recule de 5 ans, l'arrivée du métro du Grand Paris, à Bondy, à Bobigny, à Noisy-le-Sec, sur tout notre secteur, le ventre mou de la Seine-Saint-Denis, comme il a été appelé parfois, ou la terre aride de la Seine-Saint-Denis, il recule d'autant l'arrivée des entreprises et donc l'arrivée de l'emploi, l'attractivité du territoire. C'est à ce niveau-là que je l'attends, pas avec des stages de troisième, au secours.
Alors, je voulais prendre Misia en ligne, mais il est déjà 55 bien tassé, ça va être difficile. Ou alors, Misia, il faut vraiment faire pas plus de 20 secondes comme question.
Non.
Bonsoir.
Il y a quand même quelque chose qui m'a choquée, c'est que le président de la République commande un rapport qui a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et je voudrais savoir à combien ça a coûté ce rapport, parce qu'il paraît qu'il y a eu 13 000 heures d'interviews et tout, et c'est quand même notre argent, et qu'on ne commande pas un rapport pour ensuite le balayer de la main, je trouve ça un peu léger.
Merci Misia pour cette question. Renaud Epstein, vous avez une idée, vous, de combien ça a coûté cette affaire ?
Pas la moindre idée, il me semble que la plupart des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce rapport l'ont fait de manière absolument bénévole, et à ma connaissance il y avait simplement pour accompagner Jean-Louis Borloo deux personnes qui ont été mises à disposition par l'IGAS, l'inspection des affaires sociales et le ministère de la ville, donc qui étaient de toute façon déjà payés pour travailler là-dessus, donc le rapport n'a pas coûté et sa mise en œuvre coûtera encore moins.
Alors il nous reste 3 minutes, moi j'ai encore quelques petites questions à vous poser. On a parlé tout à l'heure des mots prononcés par Emmanuel Macron, il y a eu clientélisme qui a énervé pas mal de monde, et puis il y a eu mal blanc, Mehdi Boutegmès, comment vous avez reçu ce terme ?
À vrai dire, c'est passé de manière très très rapide.
C'est enfin, vous pas, l'avez entendu.
On l'a bien entendu dans la salle, mais c'est passé de manière très très rapide, et c'est vraiment des mots qu'il a utilisés que je ne pourrais pas expliquer en fait.
Vous n'avez pas eu le sentiment qu'il voulait dire qu'il allait falloir travailler plus avec des personnes issues de la diversité ? C'est ça quand même que ça voulait dire.
Totalement, quand il parle même de la clause diversité dans les emplois des entreprises, du testing, etc. Et c'est bien qu'il se dise qu'il y a un problème de légitimité. Puisqu'on parlait du fait que le rapport qui va sortir bientôt sur la Seine-Saint-Denis montre que les fonctionnaires sont souvent les plus jeunes, etc. Mais c'est aussi bien de montrer le fait que les élus, ils sont aussi parmi les plus vieux. Et certains, ils sont élus depuis le siècle dernier, si on pense encore aujourd'hui. Donc, il y a un vrai problème de légitimité. Aujourd'hui, ce que nous, on aime bien dire, ce n'est pas simplement que ce sont... que c'est l'État qui subventionne les associations, mais c'est aussi les associations qui subventionnent un travail que l'État ne fait pas.
Il est 19h58, vous allez avoir chacun 30 secondes, même pas en guise de conclusion. La priorité pour vous, la chose la plus importante, peut-être Sylvine Thomassin, pour vous aujourd'hui.
Mais c'est sans doute la réconciliation, justement, et éviter d'opposer les uns aux autres, les mâles blancs qui sauraient par rapport à d'autres qui sauraient moins, ou l'inverse. La réconciliation, c'est ce que toujours mon ami Claude Dillin disait, réconcilions les humiliés et les apeurés. Les apeurés qui sont dans des ghettos, eux, réellement. Alors là, pour le coup, de blanc, à l'ouest de Paris, et les humiliés qui, eux, n'y ont pas accès et se sentent méprisés par l'État et puis, voilà, par toutes les institutions.
Renaud Epstein, pour vous.
Tout est prioritaire dans la politique de la ville, mais moi, il me semble que s'il y a une seule chose à sauver du discours, c'est bien cette idée de cette cour d'équité territoriale. C'est, encore une fois, si on veut pas que dans 20 ans, dans 30 ans, on se repose les mêmes questions, eh bien, il faut se donner les moyens de transformer, de faire pression sur les administrations et sur les politiques, et je ne vois que cette mesure aujourd'hui.
Boutegmès, la priorité des priorités pour vous ?
Le droit commun. On a besoin d'avoir des territoires qui soient dotés de manière égale aux autres territoires en matière d'école, en matière de sécurité sociale, en matière d'emploi, en matière de police, de sécurité. Pourtant, c'est là où on a le plus de besoins et les moins de moyens.
Donc rééquilibrer les choses en faisant en sorte que ceux qui ont le moins aient le plus. Donc c'est toujours...
Pas le plus,
et autant.
Est-ce qu'ils méritent, et par rapport aussi à leur population, par rapport au nombre d'habitants, par rapport aux enjeux aussi qu'il y a.
Merci mille fois à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à Antoine Liffaut d'avoir relayé vos messages internet. Merci aux standardistes de l'émission, à la technique ce soir, Philippe Duclos, Arnaud Caillé, Stéphane Boja, Jérémy Guillon. Merci aussi Claire Chaudière, j'ai failli vous oublier. Mon Dieu, c'est l'heure de la pub.